Et oui, le générique de Vendredi Théâtre, le générique de Vendredi de Katsu. Il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. Et je suis avec les chroniqueurs de Vendredi Théâtre, je suis avec la belle Grazia, bonjour Grazia. Je suis avec le fringant Christopher et je suis avec Robin, le jeune Robin. Et nous allons donc parler, comme je le disais, d'un opéra de Katsu qui se joue actuellement au Théâtre Jean Villard. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Marion Guerrero, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la metteuse en scène du spectacle, et Katia Ferreira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédienne. Alors, on va parler tout d'abord un petit peu de la genèse de ce spectacle, puisque c'est au départ, il y avait un cours que vous donniez à l'ENSAD, l'École Nationale Supérieure d'Art Dramatique, Maison Louis Jouvet.
Tout à fait.
L'ai-je bien descendu ?
Parfait. oui, c'est ça, ça fait quelques années, Ariel Garcia Valdez, qui est l'ancien directeur de l'école, m'a proposé de faire des stages, alors un cours, disons, c'est pas un cours régulier, c'est des interventions qui durent un mois à chaque fois, et je fais ça tous les ans depuis quelques années maintenant, avec plusieurs promotions. Et la première année, j'ai décidé comme ça, un peu parce que j'adore ça, de travailler avec le chant, avec le professeur de chant, et de faire chanter les élèves. En travaillant aussi avec des impros, tout ça, donc ça a donné lieu à un spectacle qui s'appelait La Boucherie Musicale. À partir de là, Ariel m'a proposé de retenter cette expérience-là systématiquement avec du chant. Donc je suis devenue un peu la professionnelle du théâtre chanté à l'école. Et pour cet opéra de Katsu, donc d'habitude je travaillais avec des improvisations, Ariel m'a demandé de trouver un livret et j'ai tout de suite pensé à l'opéra de Katsu parce que voilà, j'avais une espèce de fantasme de cette pièce cabaret, enfin voilà, qui correspond assez bien à mon univers.
Vous connaissiez déjà quand même Brecht, puisque je me souviens vous avoir vu jouer dans Jean Lachance en tant que comédienne il y a quelques années dans une mise en scène de Jean-Claude Fall.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que l'opéra de Katsu, c'est quand même au départ un monstre. Je suppose que vous avez dû faire des coupes, vous avez dû travailler pour les tessitures des voix avec les jeunes comédiens.
Alors, c'est effectivement un très long texte et on a effectivement beaucoup coupé. Enfin, j'ai beaucoup coupé. Et puis pour ce qui est des chansons, alors vous avez vu le spectacle, donc vous savez qu'il y a des chansons qui ne sont pas des textes de Brecht et des musiques de Kurt Weill. Je me suis amusée à rajouter des chansons de toutes les époques, mais enfin plutôt de notre époque, on va dire, qui correspondent, qui ont du sens par rapport au texte, qui parfois remplacent à merveille les textes et les chansons de Brecht. D'abord parce que comme c'était à l'école et que c'était pour faire chanter les élèves, parce que c'était effectivement difficile de trouver dans les chansons de Brecht et Kurt Weill toutes les tessitures des élèves, etc. Ça aurait été compliqué de pouvoir faire chanter chacun et qu'il ait suffisamment à manger, on va dire, avec ces chansons-là. Et du coup, ces contraintes-là, comme la contrainte du fait qu'ils sont 14 et qu'on a, je veux qu'ils aient tous quelque chose à défendre, ces contraintes-là, j'ai essayé de les intégrer complètement à la mise en scène et d'en faire un avantage, en fait. Voilà. Donc je me suis beaucoup amusée à rajouter ces chansons.
Alors, j'ai noté qu'il y avait du Nougaro. À un moment, il y a du Brassens, je crois.
Ouais.
Il y a même du Véronique Sanson.
Ouais.
Et il y a aussi du Puccini.
Ouais, mais il y a aussi du NTM, il y a aussi
oui,
du LCD Sound System, du Johnny Cash. Donc, c'est des choses très éclectiques. Ouais, voilà.
Et Puccini, moi, ça m'a tout à fait intéressé. C'est au Mio Babino Caro de Giannacchi, l'opéra de Giannacchi. Mm. Et c'est vrai que Kurt Weill se revendiquait avoir été inspiré par Puccini. Donc, ça me semblait tout à fait avoir
voilà,
un sens.
C'est exactement pour ça qu'on a mis cette chanson.
Je vais me tourner vers les chroniqueurs parce qu'on a tous vu le spectacle. Vous savez que le principe de l'émission de Vendredi Théâtre, de Vendredi de Katsu, c'est qu'on voit quand même les spectacles avant et pour pouvoir en parler avec plusieurs regards. Grazia, tu as vu, tu étais avec moi pour voir le spectacle.
Oui, je l'ai vu. Alors moi, j'étais au début très surprise par le dédoublement des personnages. Parce que, je vais vous dire très franchement, c'est la première fois que je vois ça sur scène. Et parce que je me suis approchée du théâtre il n'y a pas très longtemps, donc je n'ai pas eu l'occasion de... Peut-être ça existait déjà, mais moi, je n'avais jamais vu et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça cassait complètement, disons, tout ce que j'avais vu auparavant. Deux personnages pour chaque rôle. Ça m'a beaucoup intéressée. Et en fait, ça donne la possibilité... les personnages qui jouent plusieurs rôles, ce qui leur permet surtout pour des élèves de l'INSAD de pouvoir effectivement mettre en avant leurs capacités. Donc ça m'a beaucoup plu. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ce sont les décors. C'était très surprenant aussi, tous ces vêtements suspendus à des cordes. Je me suis demandé pourquoi d'ailleurs. J'ai remarqué, les cadres en grillage, voilà, donc c'est qui servent à plusieurs choses. Finalement, là, c'est avec des éléments d'une certaine pauvreté que vous avez monté un spectacle. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, ce qui m'a fait réfléchir aussi, c'est ce côté d'actualité. Moi, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hors antenne, je suis italienne et ça m'a fait penser à tous ces misérables qui arrivent à Lampedusa et qu'est-ce qu'on va en faire, quoi. Je veux dire, parce que je suis aussi traductrice assermentée au tribunal et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de cas de traite d'enfants organisés dans ce pays et on revient des siècles en arrière, quoi. Voilà.
C'est sûr.
Bon, j'ai plein d'autres choses à dire, mais je laisse la parole.
Christopher.
Moi, je voulais revenir sur l'aspect des... Pourquoi dédoubler certains personnages ? C'est vrai que moi, j'ai eu l'impression un peu comme les petites jumelles de Shining, comme ça, un petit côté angoissant. Pourquoi alors dédoubler, certains personnages ?
Alors, comme je disais pour les chansons, c'est d'abord... purement une contrainte, on va dire, technique pour que tous les élèves aient quelque chose à défendre, voilà. Mais j'aurais très bien pu juste leur donner, ce qui se fait beaucoup, une passation de rôle, c'est-à-dire, un rôle, on va dire, le rôle de Maki pouvait être fait dans la première scène par quelqu'un, puis dans la deuxième par un autre, etc. Mais j'ai trouvé plus intéressant... De dédoubler les rôles sur scène ou de les tripler parfois, et puis ils se retrouvent parfois, ils sont deux en face d'un seul, et d'un coup ça rajoute par exemple les deux Pitchoum en face de Filch au début du mendiant, deviennent plus effrayants, ont plus de poids face à lui à deux que seul. Comme il y a vraiment cette histoire aussi de distanciation, Brecht est vraiment le père de la distanciation, il s'amusait à dénoncer vraiment le théâtre. Je trouvais ça drôle de dénoncer effectivement cette chose-là. Et en plus, je trouve que ça rajoute à la monstruosité des personnages et à cette pièce qui est un peu une sorte de cauchemar, un peu ce que vous disiez par rapport aux jumelles de Twin Peaks.
Mais moi, je trouvais en tout cas que c'était un parti pris qui fonctionnait bien. Ça ne m'a pas étonné que ça fonctionne bien. J'avais déjà l'occasion, je crois, de voir cette promotion... De l'ENSAD dans une création au Printemps des Comédiens, je ne me rappelle plus le titre.
Nobody,
voilà. Donc j'avais eu l'occasion d'apprécier leur talent et sur scène ça fonctionne très très bien, c'est des doublements c'est ce choix aussi des cordes qui tombent pour les vêtements, c'est une allusion finalement au final, j'imagine.
Alors effectivement à la base, c'est aussi cette histoire de. Alors ça, c'est vraiment pas moi qui l'ai inventé, hein, mais pareil, Brecht, c'est beaucoup, les choses à vue, donc habillage à vue, maquillage à vue, enfin voilà. Donc je trouvais ça marrant de rendre hommage à cette chose-là et d'un autre côté d'habiller la scène avec ses vêtements, parce que déjà esthétiquement je trouve ça beau, et qu'il puisse s'habiller sur scène et qu'il y ait ces choses qui pendent. Et en effet. Que petit à petit, on se dirige vers cette histoire de pendaison et qu'il y ait ces cordes qui, tout le long, soient visibles sur le plateau. Je trouvais ça drôle.
Robin, je te prête mon micro.
Oui, alors moi, c'est étonnant parce que c'est à la fois ma première rencontre avec cette pièce sur scène et à la fois, je la connaissais sur le bout des doigts. Pourquoi ? Parce que j'avais vu un opéra qui était l'Opéra des Gueux de John Gay, qui a été mis en scène par un ami à moi, Benjamin Prince, à l'Opéra Comédie. Et dans une version de Benjamin Britten. Et c'est vrai que du coup, c'était exactement le même schéma. Et même dans la mise en scène, il y avait énormément de choses qui étaient similaires, qui étaient semblables. Alors c'est étonnant, je ne sais pas si tu t'es, si tu avais vu la mise en scène.
Non,
si
du
tu...
tout. Mais par contre, Brecht s'est inspiré de l'opéra des Gueux pour écrire.
Oui, ça, c'est sûr.
Voilà,
oui.
Mais moi, je n'ai pas du tout vu cette mise en scène, non.
D'accord, parce que c'est marrant, il y a beaucoup de choses similaires. Et à la fois, du coup, Benjamin, lui, il avait décidé de dédoubler le personnage de Lucie.
Ah,
et, c'était mais par contre c'était seulement le personnage de Lucie qui était dédoublé et il y avait c'est vrai qu'il donnait beaucoup plus d'importance lui au personnage féminin notamment à Lucie et ouais, du coup la similarité était intéressante, les personnages étaient les mêmes. Le capitaine, lui, il était avec sa bande c'était étonnant parce que la bande du capitaine c'était une bande de roublards qui étaient indifférenciés, qui avaient tous des masques de loup. Et alors que du coup dans la mise en scène là de Brecht, ils ont quand même des particularités, ils jouent un rôle du coup qui est plus important.
Ils ont tous quand même c'est tous des figures un peu différentes effectivement dans la pièce. Il y a Jacob qui est un peu le benêt, il y a Mathias qui est un peu celui qu'on sent qui essaye de qui est vraiment juste derrière Mac et qui voudrait bien prendre sa place. Enfin voilà, il y a ouais, ils sont différenciés dans Brecht, oui.
Ouais. Et à la fois, du coup, cette musique de Kurt Weill qu'on voit au début et à la fin, mais moi qui m'a manqué dans le spectacle, je le dis franchement, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait plus de Kurt Weill, d'autant plus que les passages chantés, le truc pour moi les meilleurs étaient de très loin ceux qui étaient chantés sur Kurt Weill. Et qu'il y a, c'est vrai qu'il y a, même si on voyait la volonté de modernisation, et d'adaptation. C'est vrai qu'il ne faut pas perdre non plus peut-être de vue les origines de ce Brecht.
Après, des versions de l'opéra de Katsu, il y en a eu des tonnes et des tonnes. Moi, je trouve ça drôle de ne pas être forcément dans un respect absolu des œuvres. Je trouve que c'est bien de les triturer, de les faire vivre. Et j'ai tendance à penser que Brecht aurait pu trouver ça drôle de comme ça d'actualiser les choses, d'autant plus, enfin je veux dire que c'est une pièce très très connue qui a été énormément jouée, etc. Après, c'est effectivement, comme je le disais, c'est pas forcément un choix à la base artistique. Voilà, c'est parti aussi d'une contrainte. Mais cela dit, au final, je crois que ça me plaît beaucoup d'avoir fait ça, et je pense que j'aurais peut-être pas eu l'idée de le faire en montant la pièce simplement avec des acteurs, voilà. Et ça me plaît d'avoir eu cette contrainte pour avoir eu cette idée-là, finalement. Parce que je trouve que c'est aussi l'avantage de travailler dans l'école, c'est qu'on finalement on a beaucoup plus de liberté, on se pose moins la question de comment les choses vont être reprises, parce qu'on fait juste... Voilà, une présentation devant un public qui sait que voilà, c'est des élèves, etc. Donc on est moins réfréné peut-être par effectivement les critiques, etc. Et cette chose-là, on l'a jouée deux fois à l'école, et puis ça a pris cette ampleur-là, et puis maintenant c'est sur scène. Mais moi je revendique vraiment ça, en tout cas. Mais cela dit, ce que j'entends, c'est effectivement moi, je trouve que les quatre qu'on a gardés, c'est les meilleurs de Kurt Weill, sincèrement. Enfin, voilà, on en a travaillé d'autres. Dans la première version, il y en avait deux ou trois de plus. Et je les aimais moins. Enfin, sincèrement, je trouve qu'on a gardé les plus fortes. Après, c'est que mon avis. Hein. Enfin, voilà, les aficionados vont hurler, mais voilà.
On va faire une petite pause musicale. Et j'ai choisi un Elvis Costello qui rend justement hommage à Kurt Weill.
Before Lord God made the sea and the land,
Et oui, Elvis Costello qui rend hommage à Kurt Weill. Vous êtes sur Divergence FM, l'émission Vendredi Théâtre, j'allais dire Vendredi de Katsu, décidément j'y tiens. Et nous parlons de l'Opéra de Katsu, justement, qui a lieu actuellement au Théâtre Jean Villard. Je suis toujours avec Marion Guerrero et Katia Ferreira. Mais Katia, on ne vous a pas encore entendu. Mais parlez-nous un petit peu de cette expérience, vous, en tant que comédienne de l'Opéra de Katsu.
Ben, c'est le spectacle qu'on a le plus joué dans cette promotion, puisqu'on l'a créé en juin de la fin de notre première année, puis on l'a repris en décembre de deuxième année et on le reprend maintenant. Et donc, on a eu le temps de le digérer et de grandir avec ce spectacle.
Et quand Marion vous l'a proposé, ça ne vous a pas fait un peu peur, cet opéra de Katsu? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un monstre sacré quand même comme pièce.
Oui, je crois que de chanter sur scène, c'est plus facile pour certains que pour d'autres. Mais là aussi, on a tous progressé avec le professeur de chant. Et donc, on a pris plus d'aisance avec cet exercice pour certains.
Vous êtes 14 sur scène.
On est 14, oui. 7 filles, 7 garçons.
Comment ça s'est passé, ce travail à 14, avec le chant, la comédie?
On est habitués, on fait ça plus de 2 ans maintenant, à travailler tous ensemble. Mais c'est un spectacle qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de précision, parce que...
Tout doit être millimétré.
Pardon ?
Tout doit être millimétré.
Oui, tout est millimétré et en même temps, il faut réussir à trouver de la liberté et parce que les personnages sont parfois dédoublés aussi, essayer de montrer des aspects différents de chaque personnage et d'y mettre un peu de sa vision du personnage dans un cadre qui effectivement est très précis. Essayer de rester vivant dans un cadre qui est effectivement très chorégraphié par moment.
Alors ce soir, c'est la dernière à Jean Villard, mais est-ce que c'est un spectacle qui va tourner après ? C'est toujours la question qu'on pose.
On espère, on verra.
Non, mais en tout cas, déjà, ce qui est sûr, c'est que là, après Jean Villard, il joue 3 dates encore.
Ah, il me semblait bien.
En décentralisation à Alès, donc c'est à Allègre-les-Fumades. Voilà. dans une configuration qui n'a rien à voir, parce que c'est vraiment. Ça va être très réduit au niveau du plateau. Donc c'est bien, ça leur apprend aussi à. à travailler sur différents espaces, à s'adapter, etc. Parce que là, quand même, effectivement, ils l'ont beaucoup joué à l'école, mais le fait d'être à Jean Villard, ça change quand même beaucoup les choses, parce que c'est quand même un gros théâtre.
C'est un beau théâtre.
C'est un beau théâtre, c'est une grande scène. Enfin, évidemment, rien à voir avec la salle de l'école, même si les salles de l'école sont très chouettes pour des salles d'école. Hein. Mais voilà. Donc oui, et pour après, on ne sait pas, pourquoi pas le reprendre, oui, ce serait chouette.
Oh, ça serait bien que ça tourne un petit peu dans la région, et puis ailleurs aussi, ailleurs que dans la région. Mmh. Et donc, nous, on l'a vu au théâtre Jean Villard, on ne l'a pas vu au conservatoire. Et quelles sont les réactions du public? Est-ce que vous avez des réactions du public après? Moi, je l'ai vu à la première avec Radia, et vous avez eu des retours?
Katia, vas-y.
Mais ça dépend un peu des soirs. Il y a des soirs où le public est très... très réactif, et puis des soirs où il l'est un petit peu moins, et ça nous apprend aussi à gérer de l'intérieur le spectacle différemment selon les soirs. Et les gens souvent nous posent des questions sur cette histoire de doublon, de comment on vit ça de l'intérieur, et puis aussi comment passer d'un personnage à un autre comme ça très très rapidement avec des changements de costume très courts. Voilà.
Certains des changements de costumes sont directement sur scène.
Oui, 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 bien sûr. Enfin, effectivement, on dénonce complètement ça. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, ce théâtre dans le théâtre, voilà. Effectivement, des changements de costumes se font en jeu, enfin, complètement intégrés à la scène.
C'est vrai qu'il y a cet aspect de la dénonciation, mais finalement, j'ai un peu l'impression que l'aspect politique de la pièce, je ne la retrouve que au final. J'ai du mal à le retrouver tout le long de la pièce, alors que j'ai l'impression que c'est une pièce qui est quand même très très politique normalement.
Je vois pas comment appuyer plus l'aspect politique. Il est intégré dans, par exemple, dans la première scène avec ce marchand de misère là, Pitchoum, avec les mendiants, tout ça. Brecht, effectivement, c'est une pièce politique, mais lui-même en fait quand même une farce, c'est-à-dire il se sert de l'humour pour faire passer un message politique, effectivement, peut-être aussi déjouer une certaine censure, enfin voilà, mais je pense aussi que lui s'amusait beaucoup à ça, enfin voilà, et moi je m'amuse beaucoup aussi avec ça, et tant mieux si ça fait écho à des choses, comme vous le disiez au début, Gradia, voilà, mais je pense que, enfin moi, faire du théâtre politique, pour moi, c'est pas forcément être sinistre et revendiquer point levé des choses, c'est vraiment aussi... le plus finement possible et avec humour et avec distance, faire passer des choses dures parfois, voilà, et qui font effectivement écho à des choses d'aujourd'hui.
Alors ce qui est noté, c'est que la pièce L'Opéra de Katsu, c'est une pièce qui a été écrite en 1928. Et ce qui est incroyable, c'est la modernité qu'a conservé ce texte quand il dénonce les pompiers. Voilà, c'est tout à fait hallucinant. Gradia, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, je suis tout à fait d'accord. Je crois que, pour moi, tout a été dit. J'ai trouvé ça très intéressant comme travail et subversif, oui.
On adore la subversion. On adore ça. Merci de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau. On va rappeler que la dernière, c'est ce soir, c'est au théâtre Jean Villard.
C'est complet.
Et c'est à 20h, mais il y a toujours petite place.
D'accord.
Voilà, on va se quitter parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas passé à l'antenne, ça fait bien 15 jours. Hein, je regarde Christopher qui se moque toujours de moi, avec la grande Marianne Oswald qui a chanté magnifiquement l'opéra de Katsu. Et là, c'est Surabaya Johnny.
T'es une vraie môme, t'es venue un beau jour de Burma, t'as même pas dit les mots qui nous empaument, mais seulement viens, je t'emmène avec moi. Je t'ai demandé est-ce que tu travailles, tu m'as dit je suis chauffeur au chemin de fer, je roule tout le temps et tant pis si je déraille, ça vaut mieux que trimer sur la mer. Tu m'en as dit, Johnny, tu m'as menti, Johnny, t'as pris mon âme, Johnny, comme un beau fruit. Pourtant, je te hais, Johnny, parce que tu te fous de moi, Johnny. Enlève la pipe de ta gueule, voyou. Surabaya Johnny. Pourquoi t'es si méchant? Surabaya Johnny. Mon Dieu, tu sais que je t'aime tant. Surabaya Johnny. Pourquoi que j'ai le cœur gros? C'est que t'as pas de cœur, Johnny, et que je t'ai dans la peau. On ne regarde rien quand on aime. Maintenant c'est à tout du marlou. J'étais bête, mais j'ai compris quand même qu'on bandit, t'es connu partout. Et un jour, dans notre hôtel borgne, le bruit des vagues, voilà ce que j'entendrai. Oui, tu parles sans me dire une parole. Ton navire glisse le long du quai. Tu n'as pas de cœur, Johnny. Tu n'es qu'une gouape, Johnny. Tu fiches le camp, Johnny. Dis, pourquoi dire que je t'aime tant, Johnny, comme au premier jour, Johnny? Enlève la pipe de ta gueule, voyou, Surabaya Johnny. Pourquoi t'es si méchant, Surabaya Johnny? Bon Dieu, tu sais que je t'aime tant. Surabaya Johnny, pourquoi que j'ai le cœur gros? C'est que t'as pas de cœur, Johnny, et que je t'aime tant.
La grande, la merveilleuse Marianne Oswald qui chante du Brecht et du Kurzweil. Vous êtes sur Divergence FM, l'émission Vendredi Théâtre. Et je dois dire que c'est un petit Vendredi Théâtre puisque nous devions avoir 3 plateaux ce matin et il y a eu 2 des spectacles qui ont été annulés. Il y avait un spectacle sur Aimé Césaire qui était au Carré Rondelet qui a été annulé et un spectacle tiré de Bobin qui était à Pierre Tabar et qui a été annulé aussi. Donc on va rester ensemble et on va continuer sur Kurzweil, sur l'opéra de Katsu, mais surtout sur Kurzweil pour vous faire découvrir des aspects de ce compositeur. Alors Kurzweil, il a une vie brève puisqu'il est allemand au départ, il est mort en 1950 aux États-Unis et il était juif, communiste. Et donc en 1933, il est obligé de quitter l'Allemagne. Alors, comme première pause, pour illustrer tout ça, j'ai réussi à retrouver dans mes archives quand même un enregistrement de 1931 avec Bertolt Brecht lui-même qui nous chante un extrait de l'opéra de Katsu.
Hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Messi Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mäcki Messer, den man nicht beweisen kann. Jenny Tauler war gefunden mit nem Messer in der Brust, und am Kai geht Mäcki Messer,
er von allem nicht gewusst. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Kreis in der Menge. Mäcki Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis?
Et oui, c'était bien la voix de Bertolt Brecht dans cet extrait de l'opéra de Katsu, un opéra qu'il a écrit en 1928 avec Kurt Weill. Et on va parler encore de Kurt Weill. Kurt Weill a fait beaucoup de choses. Donc l'opéra de Katsu s'est créé en 28. Et qui a créé en 28 le rôle de Jenny? C'est Lotte Lenya. Lotte Lenya qui a été l'épouse de Kurt Weill, avec qui il a eu une relation très orageuse, puisqu'ils se sont mariés en 27, ils ont divorcé en 33 et ils se sont remariés aux États-Unis en 1937. Et ben, on va écouter tout de suite Lotte Lenya qui a créé le rôle dans Pirate Jenny.
Sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, gewisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mit dem Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und in dieser Nacht wird ein Getös sein am Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster. Und man fragt, was lächelt die so bös? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und am dritten Tage ist die Stadt im Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gegen Morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beflaggen den Mast. Und es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür und legen ihn in Ketten und bringen ihn mir und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss.
da werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir.
Lotte Lenya sur Divergence FM. Nous parlons donc dans Vendredi Théâtre de Kurt Weill. On va essayer de vous faire découvrir quelques aspects de Kurt Weill, connus et moins connus. Je disais donc que Kurt Weill, en 1933, il est obligé de quitter l'Allemagne, puisque en tant que juif et communiste, ça commençait à sentir le roussi. Et il arrive à Paris en 1933. Il va rester 2 ans à Paris. Et à Paris, il est accueilli par qui ? Quelqu'un dont on célèbre le cinquantenaire de la mort aujourd'hui même. Il s'agit bien entendu de Jean Cocteau. Jean Cocteau qui est partout. Hein. Il a accueilli tout le monde, il était à l'affût de tout. Et il va présenter d'ailleurs Kurt Weill au groupe des 6. Donc je ne connais plus les noms exactement. Il y avait Germaine Taillefer, Darius Milhaud, Honegger, et j'en oublie. Et... il va proposer un moment à Kurt Weill. Alors, Cocteau parlait très mal allemand, donc il va proposer une idée à Kurt Weill. Kurt Weill va faire une musique sur cette idée et il va essayer de traduire l'idée de Cocteau. Et ça donne une chanson dont j'ai trouvé une version interprétée par Brigitte Fassbender en tant que mezzo-soprano. Ça s'appelle « Es regnet ». Et oui, une chanson de Kurt Weill d'après une idée de Jean Cocteau. Et je disais donc que Jean Cocteau a accueilli Kurt Weill à son arrivée en France en 1933. Il lui a présenté d'autres musiciens et il lui a présenté aussi des poètes. Et entre autres poètes, il lui a présenté un monsieur qui s'appelle Maurice Magre, qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui était un écrivain tout à fait intéressant. Et Maurice Magre, il avait un point commun avec Jean Cocteau, et ce point commun, c'était l'opium. Il faut rappeler quand même que Jean Cocteau, quand il était en forme, il arrivait à fumer 60 pipes d'opium par jour. Voilà, deux grands opiomanes, et voilà. Et Maurice Magre écrit donc une chanson pour Kurt Weill, et cette chanson, on va l'avoir avec une version chantée par Jean Guidoni, La Complainte de la Seine.
Au fond de la Seine, il y a de l'or, des bateaux rouillés, des bijoux, des âmes. Au fond de la Seine, il y a des morts. Au fond de la Seine, il y a des larmes. Au fond de la Seine, il y a des fleurs, de vases et de boue. Elles sont nourries. Au fond de la Seine, il y a des cœurs qui souffrirent trop. Et puis des cailloux et des bêtes grises, lames des égouts soufflant des poisons, des salauds jetés par des incomprises, des pieds qu'une hélice a coupés du tronc. Et les fruits maudits des ventres stériles, les blancs avortés que nul n'aima, les vomissements de la grande ville. Au fond de la Seine, il y a tout ça. Aux Seines clémentes, où vont les cadavres, au lit dont les draps sont faits de limon. Fleuve des déchets, sans fanal ni âme, chanteuse berçant la morgue et les ponts. Accueille le pauvre, accueille l'ivrogne, accueille la femme, accueille le fou. Mêle leurs sanglots au bruit de tes larmes, et roule leur cœur, et roule leur cœur, et roule leur cœur parmi les cailloux.
Et Guidoni, qu'est-ce qu'il est grand ce Jean Guidoni, avec cette complainte de la Seine, donc avec une musique de Kurt Weill et des paroles de Maurice Magre, des paroles tout à fait exceptionnelles quand même. Je rappelle que nous parlons de Kurt Weill, puisqu'il y a l'opéra de Katsu qui se joue actuellement à Jean Villard. Donc Kurt Weill est mort en 1950 aux États-Unis. Après, il y a eu une petite période où on a eu tendance un peu à l'oublier, jusque dans les années 60, où en 1966, sur l'opéra de Francfort, il y a une nouvelle version qui est montée de l'opéra de Katsu, une version magnifique, donc avec les chœurs et l'orchestre de Francfort. On va écouter un petit extrait, « Kanonen Song ».
Jim war dabei
und George ist zerschankt geworden.
Doch die Armee fragt keine, wer sei.
Marschiert hinauf nach dem Norden.
Soldaten wurden auf den Kanonen von Kapp bis Kaufschwehr.
Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse,
da machen sie vielleicht daran.
Sieg,
Tartar!
Johnny war der Whisky zu warm, Gin hat ihn nie genug decken. Aber Georgie nahm beide beim Arm und sagte, die Armee kann nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse. Da machen sie vielleicht daraus ihr Mistik, Tartar. John ist gestorben und Jimmy ist tot.
Und George ist vermisst und verdorben.
Aber Blut ist immer noch rot.
Für die Armee wird jetzt wieder geworben.
Soldaten wohnen auf den Kanonen. Von Kap bis Bauch-Behaar.
Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse,
da machen sie vielleicht.
Une version tout à fait punchy de cet opéra de Katsu. Je rappelle que c'était l'orchestre de l'opéra de Francfort, une version de 1966. Nous parlons donc de Kurt Weill sur Vendredi Théâtre, ce vendredi de Katsu. Et on va finir, on va se quitter un tout petit peu que, plutôt que d'habitude, puisque nous n'avons plus de spectacle à explorer ce matin. Et j'ai retrouvé dans mes archives quand même un document tout à fait exceptionnel, un hommage complètement déjanté qu'a fait le grand écrivain William Burroughs. William Burroughs, l'écrivain phare de la Beat Generation, et il fait un hommage très burrossien à donc Kurt Weill avec ce que vous allez entendre tout de suite. Donc Vendredi Théâtre, ça se termine plus tôt aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouvera pour parler de théâtre avec le Carré Rondelet. On recevra le directeur du Carré Rondelet, Avner Pérez, monsieur Avner Pérez, qui viendra nous parler de la saison de ce théâtre tout à fait sympathique. Donc on se quitte avec William Burroughs, donc avec cet hommage de Burroughs à Kurt Weill. À la semaine prochaine.
And now, the ballad of the question. What keeps mankind alive? You gentlemen who think you have a mission to purge us of the seven deadly sins should first sort out the basic food position. Then start your preaching. That's where it all begins. You lot who preach restraint and watch your waist as well should learn for once the way the world is run. However much you twist, or whatever lies you tell, food is the first thing. Morals follow on. So first be sure that those who are now starving get proper helpings when we all start carving. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that millions are daily tortured, starved, silenced, and oppressed. Mankind can keep alive thanks to his aptitude for keeping his humanity repressed. And now for once, you must try to face the facts. Mankind is kept alive by bestial acts, and for once You must try to face the facts. Mankind is kept alive by bestial acts.